L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve? Voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le MAG à 12h et 17h.
L'Atelier Blanc et le Moulin des Arts de Saint-Rémy accueillent une nouvelle exposition intitulée « Recomposition » ou « Comment continuer à faire évoluer notre humanité dans un monde changeant ». La commissaire Raphaël Jeune a réuni 5 artistes qui interrogent l'hybridation de l'humain avec d'autres vivants et le digital. Nous sommes à l'Atelier Blanc à Villefranche-de-Rouergue pour découvrir les œuvres de Camille Jutier et Benjamin Blacard en compagnie de Raphaël Jeune. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler de votre travail de commissaire et de ce projet d'exposition ?
Oui, donc le travail d'un ou d'une commissaire consiste à réunir un certain nombre d'artistes autour d'un propos qui correspond à une préoccupation qu'on peut avoir. L'aspect délicat de ce travail, c'est d'arriver à partir de ce propos, à laisser un espace aux œuvres pour qu'elles puissent elles-mêmes s'exprimer, donc de ne pas étouffer les œuvres derrière un propos, mais au contraire d'arriver à trouver un équilibre entre ce propos de départ et puis la diversité des œuvres et leur singularité.
Alors là, on est à l'étage de l'Atelier Blanc et on découvre le travail de Camille Jutier. Peut-être qu'on peut faire un petit paysage de ce qui nous entoure, essayer de donner une image de ces vibreuses, des chrysalides.
Oui, pour cet espace de l'Atelier Blanc, donc à l'étage, j'ai eu envie de proposer cette très belle œuvre de Camille qui est constituée donc de chrysalides. Il y en a 18, des grandes chrysalides qui font entre 1,20 m et 2 m, et donc qui sont suspendues au plafond dans tout l'espace, avec une variété à la fois de couleurs et de matériaux. Alors peut-être pour expliquer le propos de Camille, c'est une artiste qui travaille beaucoup sur la perception, qui travaille sur l'hybridation aussi, qui s'intéresse évidemment à la crise écologique, aux questions aussi de genre, qui apparaissent peut-être un petit peu moins dans cette installation. Là, sur son installation, en fait, elle va travailler avec de multiples matériaux qu'elle va assembler. Donc par exemple du tissu, de la mousse, de matelas, du fil de fer, du silicone, des bouts de bois qu'elle va badigeonner de silicone par exemple, du plexiglas auquel elle va donner des formes de fleurs, de fausses fleurs par exemple. Également de la bâche plastique dans laquelle elle est venue incruster des feuilles d'arbres donc qui sont en décomposition, ce qui veut dire que dans cette installation il y a des êtres vivants qui évoluent. Donc on a vraiment un mélange de matières artificielles et de matières naturelles, et ça l'intéresse vraiment beaucoup. Et puis également, elle a souhaité faire rentrer dans l'installation le flux d'énergie. Donc on a deux points lumineux, un qui est tout au fond de l'espace, comme ça, dans le coin de l'espace, comme une invitation à aller voir au fond, et puis un autre qui est accroché à une chrysalide et connecté avec de la fibre optique de manière à diffuser la lumière en tout petit point. Donc on a vraiment à la fois une cohérence d'ensemble, puisque c'est un ensemble de chrysalides qui sont là comme en gestation dans cet espace qui ressemble là vraiment très fortement à un grenier. Et on se demande bien ce qui va sortir de ces chrysalides à la fin de l'exposition, peut-être quelle sorte de chimère va sortir, peut-être mi-artificielle, mi-naturelle, mi-animale, mi-végétale, on ne sait pas trop. Et on a vraiment ce mélange de matériaux. Et puis aussi, ce qui est vraiment très intéressant dans le travail de Camille, quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'amour des formes qu'elle propose et aussi d'une désinvolture dans la manière dont elle les fabrique et dont elle les traite. C'est-à-dire que c'est des cocons presque bricolés, faits à la va-vite, mais qui ont une harmonie et qu'on a envie en même temps de prendre dans ses bras, de bercer. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est qu'on voit aussi qu'il y a finalement une échelle qui se rapproche de l'humain. Ça interpelle plutôt pas mal quand on rentre dans l'exposition.
Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est l'échelle et c'est aussi la forme, puisque ce sont des formes, comme on pourrait dire, un peu ovoïdes. Et donc, oui, ça peut aussi être un peu inquiétant. On peut y voir des pendus, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas... Assez rapidement, on voit bien que ce sont des formes qui contiennent quelque chose qui est en travail, qui est en devenir, et on ne sait pas exactement quoi. Et je crois que ce qui intéresse Camille aussi, c'est de travailler sur la question du mélange, justement, des éléments naturels, artificiels qui composent notre monde. Je pense qu'elle a une réflexion sur la saturation... de la pollution, par exemple, la saturation des produits, des artefacts qui envahissent le monde et qui viennent complètement interférer avec les processus naturels. Par exemple, elle, dans d'autres installations, elle utilise des produits qu'on met, enfin des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène, comme du déodorant Axe ou des choses comme ça, des produits chimiques en fait, qu'elle utilise presque comme un liquide naturel. Et donc elle laisse évoluer ça, elle va par exemple badigeonner un mur avec ce genre de substances chimiques, hein, qui sont des substances qu'on met sur le corps, et ça c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et puis tous ces cocons par exemple sont fabriqués avec des objets de récupération. Donc elle va trouver des matelas dans la rue, elle va récupérer des vieux bouts de tissu et toutes sortes de choses, et elle arrive vraiment à créer, enfin elle est sublimée quelque part. Et un dernier aspect important de son travail, je pense, c'est un travail sur la perception de soi, la proprioception. Donc on voit par exemple dans un des cocons une toute petite photo, il faut vraiment s'approcher du cocon pour la voir,
oui, je la vois,
qui
oui.
Montre les aires du cerveau qui servent à la proprioception.
Ah oui.
Voilà, qu'on voit là. Donc, et puis même parfois sur les tissus qu'elle utilise, par exemple ici on voit du tulle jaune pâle, hein, et dessous un couverture de matelas, elle va sérigraphier des motifs aussi qu'elle peut utiliser, enfin, qu'elle peut récupérer d'images autour de cette histoire de la perception.
Et créer un lien aussi entre les différents matériaux, parce qu'on voit que deux matériaux différents ont une même sérigraphie. Je vois ici le tulle est sérigraphié,
oui.
Et puis
tout à fait.
C'est du duvet, il est sérigraphié de la même façon, et donc ça crée aussi quelque chose d'assez intrigant aussi.
Ouais.
Et
cohérent.
Et cohérent,
oui. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, en fait, la perception de soi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Perception au sens perception sensible aussi, des affects, de la sensibilité, qui est en train de changer beaucoup, justement, avec les mutations du monde, avec les mutations des rapports sociaux, des réseaux sociaux, de notre usage du téléphone portable, de notre distanciation les uns avec les autres. Et donc c'est un des aspects aussi de son travail que d'essayer de peut-être un peu moins visible dans cette installation-là que dans d'autres œuvres, mais qui transparaît quand même par des petites photos comme ça,
ouais.
ou par des détails aussi qu'il faut chercher à droite et à gauche. Voilà.
D'ailleurs, en parlant de détails, on entend un léger bruissement en fond. Alors, je vais me rapprocher un petit peu.
Oui, Donc ça, c'est un petit objet qui est en fait un petit masseur, un petit vibromasseur de dos qu'on utilise voilà, pour se relaxer le dos et qui est, que Camille Jutier a eu envie de rajouter à cette installation pour justement apporter une sorte de... Soit un cœur qui bat, soit un petit parasite qui vient intriguer en fait le visiteur parce que on le laisse par terre, donc comme il vibre, les trois pieds qui normalement servent à toucher le dos pour masser, là servent de pieds et ça s'appuie par terre et donc il circule tranquillement dans
l'exposition. Il devient vivant.
Voilà, il devient vivant. Il donne, il fait vraiment un point de vie dans cette installation. Il menace peut-être de réveiller les cocons. Enfin, il y a cette ambivalence entre d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre de la bienveillance et puis aussi une menace par rapport à ces cocons endormis. Et donc, il va intriguer, je pense, aussi les visiteurs.
Oui, parce que tout à l'heure aussi, on parlait de cette notion d'inquiétude qui est un petit peu présente dans l'exposition, dans le travail de Camille Jutier, mais qui s'efface quand même assez rapidement au vu des couleurs. On n'a pas tellement parlé de l'ensemble des couleurs et des notes colorées qu'il pouvait y avoir dans l'exposition.
On est plutôt sur des teintes pastel, hein, qui sont sans doute les teintes aussi des matelas, des tissus, d'ameublement, beaucoup, qu'on retrouve. Mais c'est aussi ponctué de teintes fluorescentes, notamment jaune, verte, qu'elle trouve soit dans des tissus, soit dans les plexiglas qu'elle va thermoformer. Et donc, ça crée comme ça des points de lumière qui sont aussi vraiment mis en valeur par l'architecture du lieu avec ces puits de lumière. Et on a essayé justement de placer les cocons pour capter cette lumière et magnifier voilà, certaines pièces.
D'accord, merci. Ben, on va maintenant se diriger vers la pièce du bas, hein, de l'atelier blanc pour voir le travail ensemble de Benjamin Blacard. Donc dans la salle du bas de l'atelier blanc avec Raphaël Jeune pour la nouvelle exposition Recomposition. Et là on découvre le travail de Benjamin Blacard et on peut regarder peut-être déjà dans un premier temps s'attarder sur la vidéo qui est diffusée, qui est vidéo projetée.
Oui, donc c'est une vidéo qui s'appelle Well-being, ce qui veut dire bien-être. Et peut-être juste pour expliquer un peu la démarche de Benjamin Blacard, il s'intéresse beaucoup, alors évidemment, à la question de l'hybridation entre le corps humain, l'animal. Et puis les algorithmes, en fait, l'ingénierie. Donc voilà, ça c'est le mot important, je pense, pour comprendre son travail. C'est comment est-ce que il réussit à utiliser le vocabulaire de l'ingénierie pour créer des formes qui vont être assez intrigantes d'humains augmentés, on va dire. Et dans cette vidéo, il utilise des images 3D. Qui sont en fait reprises, qui existent, hein, qu'il a trouvées dans une banque d'images 3D, en s'inspirant justement de l'utilisation de l'image 3D à la fois par le cinéma, d'un côté, donc il amène tout l'imaginaire du cinéma, justement toutes les possibilités que la 3D offre au cinéma dans son travail, et puis de l'autre côté, ce qui l'intéresse aussi, c'est comment la 3D est utilisée par les industries, différentes industries, tout type d'industrie en fait, je pense aujourd'hui, sauf peut-être agroalimentaire, mais en tout cas des prothèses, de l'armement, des fabrications, je sais pas moi, d'aéronautique, d'artefacts quelconques. Et donc on voit sur cette vidéo des images comme ça en trois dimensions qu'il a programmées lui-même. Il a repris une anatomie, alors plutôt un squelette humain. Qu'il a investi avec des phrases qui sont en fait des injonctions qui nous sont faites par le capitalisme pour aller bien en fait. Donc soyez actifs, je ne sais plus, soyez créatifs, soyez attentifs, voilà, des injonctions comme ça.
Productifs.
Ouais, voilà. Et en tout cas, autour de cette société de la performance, du tout performance, qu'on doit incarner faisant partie de l'appareil de production. Mmh. Et donc, ces mots qu'on voit là, justement, ici, circulent dans un système circulatoire de ce corps. Donc, c'est peut-être un système, ça ressemble un peu à un système sanguin, mais en même temps, on ne sait pas trop. Et donc, on les voit passer. Voilà, par exemple, ici, on a le mot keep learning, parce que c'est des mots qui sont en anglais, donc ne cessez pas d'apprendre. Ou bien encore connect, donc connectez-vous. Et puis il y en a d'autres comme ça, donc je les ai dit tout à l'heure, soyez actifs, etc. Donnez, give. Et donc on tourne à l'intérieur de cette espèce de cage thoracique dans laquelle les mots circulent, flottent. Et puis on a donc après un passage où on rentre dans une formalisation 3D de crâne dans laquelle on voit que s'échangent deux mots qui sont le mot objet et le mot sujet. Et en fait, Benjamin Blacard nous parle de la difficulté aujourd'hui en tant que sujet humain, puisqu'en fait on imagine que dans nos habitudes de pensée, on imagine qu'il n'y a que l'humain qui est un sujet, en fait, ou que l'humain est un sujet qui dit « je », et qui manipule des objets. En fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Par exemple, en neurobiologie, on se rend compte que le sujet et l'objet se mélangent en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet ou un monde séparé d'un sujet, mais que le sujet et le monde sont complètement coémergents et mélangés, enchevêtrés. Et c'est en partie ça que Benjamin Blacard essaye de dire quand il fait permuter ces mots de sujet et objet, puisque la séparation entre sujet et objet n'est pas du tout aussi claire que ça. Et puis on voit également parfois des sortes de dessins ou des citations, et il a notamment travaillé à partir des écrits de Paul B. Preciado, qui est un philosophe, auteur, trans. Qui est donc devenu un homme et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages et là c'est vrai que c'est une lecture qui l'intéresse beaucoup justement autour de la transformation du corps et des mutations qu'il y a autour de cette transformation d'identité parce que la question de la difficulté justement de circonscrire une identité fait aussi partie de ses préoccupations. C'est peut-être ce qu'on peut voir aussi avec les sculptures qui accompagnent cette vidéo. Donc il y en a trois, oui. Trois sculptures différentes, qui s'appellent des xénomorphes. C'est une série qui a sa cohérence. Ce sont des sculptures en verre, avec des formes uniques à chaque fois, assez délicates, qui sont toutes éclairées de l'intérieur. Donc il y en a deux qui sont sur des socles, il y en a une qui est relativement petite, qui fait à peu près 35-40 cm, qui est donc un peu comme un cocon oblong avec une lumière blanche qui éclaire sur le devant. Et puis l'autre qui ressemble peut-être plus à un animal, peut-être à un batracien, on ne sait pas trop, et qui est également éclairé de l'intérieur. Avec des lumières bleues, et à chaque fois Benjamin va mélanger les matériaux et les registres à l'intérieur de chacune de ces sculptures, de ces deux sculptures au moins. Il met des formes organiques qui sont réalisées en je crois que c'est de l'impression 3D, il me semble, qu'il met à l'intérieur de ces moulages en verre et qui porte la lumière.
Donc c'est des structures qui sont pensées en amont pour
cette forme.
Voilà, pour cette forme, et qui ensuite sont insérées en ayant déjà épousé la forme par leur conception 3D.
Donc il y a aussi là une forme d'ingénierie.
Oui.
Par exemple, si on regarde celle-ci,
oui,
la petite blanche, à l'intérieur, il y a une forme qui pourrait faire penser à une représentation abstraite d'une colonne vertébrale. Donc on a vraiment un mélange entre Enfin, des références animales, de vertébrés, et puis une forme de cocon, et puis également une forme d'objet décoratif, hein, parce qu'on peut aussi y voir des objets décoratifs. Donc ça intéresse justement Benjamin, ce mélange des genres qui fait qu'on n'arrive pas du tout à déterminer de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un humain, donc un animal non humain ou un ouais. humain.
De manipulation finalement de plusieurs formes de vivant, voilà, et au-delà de ça, avec le digital qui s'insère dans cette manipulation, et donc cette hybridation plus ou moins qu'on peut percevoir par différentes strates de lecture.
Voilà, tout à fait. Et en fait, ce trouble de l'identification permet pour Benjamin de penser une évolution possible. Hein. C'est-à-dire, il nous amène à réfléchir à la possibilité de penser un futur, hein. Qui serait pas forcément dystopique, mais qui serait forcément un futur recomposé. C'est pour ça que ce mot de recomposition est important, c'est que les identités sont recomposées, les ontologies, c'est-à-dire les modes d'être, sont recomposés, c'est-à-dire que tout se mélange.
D'accord. Et ce qu'on a, il me semble qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en fait, on est quasiment plongé dans le noir dans cette pièce. Oui. Donc, on a vraiment une atmosphère très particulière. Et aussi, on a le son de la vidéo. Et sur une des trois sculptures, un écran avec un message qui défile aussi. Oui. Donc, on a des points d'appel comme ça qui font qu'on découvre... l'exposition de cette manière-là, dans cette pénombre un petit peu.
Oui, oui. On peut parler peut-être... C'est vrai que
Mais là, on entend le son de la vidéo. Voilà.
C'est vrai que la lumière vient des œuvres. Ça, c'est vraiment important. Et oui, on entend ce son qui accompagne ces images de synthèse, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, je voulais parler de la dernière petite sculpture qui est, elle, au mur, alors que les deux autres sont posées sur des socles. Donc, cette petite sculpture, en plus, elle est dans un dégradé de noir allant vers le blanc, en bas. Et dans la partie noire, des mots défilent, quelques mots, simplement, qui disent « Je veux vivre... seul, all by myself, I want to live all by myself », donc ce sont des paroles d'une chanson, mais c'est à la fois une référence à notre société individualiste, mais aussi, je pense, puisque cet objet ressemble à la fois aussi là à un cocon, à une tête, c'est une entité hybride aussi, on ne sait pas bien comment la définir. On ne sait pas dans quelle mesure on peut communiquer avec elle. Hein. Donc elle nous renvoie ce message qu'elle veut vivre seule. En même temps, on ne sait pas, on a l'impression que ce n'est pas vraiment un message authentique, véritable. Hein. Ça peut être aussi une complainte. Donc c'est une œuvre qui joue vraiment sur cette ambivalence aussi autour de l'individualisme, du repli sur soi, que nous amènent aussi les réseaux sociaux et nos modes de vie aujourd'hui capitalistes. Parce que cet aspect aussi du néo-capitalisme est quelque chose qui travaille dans les œuvres de Benjamin Blacard, justement sur la manière dont ça nous amène à, comme je disais tout à l'heure, à être performant, être bien, avoir du plaisir et tout ça, ça génère une économie en fait, c'est uniquement pour générer une économie. Donc ces œuvres-là laissent aussi penser qu'il y a peut-être des alternatives à ce rapt de nos affects.
Merci Raphaël Jeune.
L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve, voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le MAG à 12h et 17h.